voici, c'est l'été, à peine un nuage, disait le poète. 2 mois durant lesquels nous serons là, chaque jour, table dressée, pas un pli sur la nappe, prêt à accueillir nos convives. Une grande table qui, à 13h30, fera une place à Julien Clerc, entre 2 cadences, entre 2 concerts, qui chante à nos amours son dernier album et aussi tous les autres. Mais avant, une histoire va nous occuper. Elle habite déjà les murs du musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est celle d'Adolfo Kaminski, résistant, photographe, qui sauva des milliers de vies grâce à ses talents de faussaire. Une vie clandestine à fabriquer de faux papiers pour sauver les juifs et après-guerre les opprimés du monde entier. Alors que sa biographie a été écrite par sa fille, son œuvre de photographe, longtemps restée dans l'ombre, est désormais exposée. Nous en parlons justement avec Sarah Kaminski, sa fille, comédienne, scénariste, et Amaury Dacluna, écrivain, photographe, co-auteur de Changer la donne, publié à l'occasion de l'exposition. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Bessery.
Amaury Dacluna et Sarah Kaminski, bonjour.
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 Un petit point biographique avant de parler de cette exposition, puisqu'elle-même titre sur photographe et faussaire. Alors il faut raconter un peu l'histoire d'Adolfo Kaminski. Sarah Kaminski, vous avez écrit cette histoire.
Oui, j'ai écrit sa biographie il y a 10 ans. Et ça raconte ce combat politique qu'il a mené pendant plus de 30 ans de sa vie. Il est devenu faussaire à l'âge de 17 ans et tout à coup, il a récupéré en fait la direction du laboratoire de faux papiers de Paris. Et cet engagement qu'il a pendant la Seconde Guerre mondiale l'a amené à avoir un engagement qui s'est poursuivi jusque dans les années 70.
Alors c'est une histoire qui est à la fois une histoire d'engagement très fort, une histoire liée justement à la guerre, mais aussi une histoire artistique, une histoire de couleurs, une histoire de produits chimiques. Dans cette exposition, Amaury Dacluna, il a été décidé qu'il y aurait à la fois les photos artistiques qu'a pu faire Adolfo Kaminski, mais aussi que son histoire serait racontée et ses documents de faussaire exposés comme des œuvres d'art.
Vous avez raison, c'était tout l'intérêt de l'exposition, parce que ces photographies qui sont, en tout cas à Paris, totalement inédites, elles ont un intérêt propre, mais elles ne peuvent pas être déconnectées finalement de l'histoire, de cette histoire dont on a parlé, de cette première partie de la vie de Kaminski, de faussaire. Et si, on ne peut pas envisager cette liberté photographique qui fut la sienne sans la remettre dans cette perspective historique, dans ce passé. Et c'est ça qui est intéressant dans l'exposition, c'est qu'on a la vie d'avant, la vie de laborantin dans lequel il faisait ses faux papiers, et la vie d'après, la vie de la libération, du regard. Et c'est ça qui est, ce sont des toutes formes de documents qui montrent un petit peu différents aspects de la vie d'un homme.
Alors une vie qui va durer longtemps, puisqu'on va voir que les faux papiers, on va voir d'ailleurs ceux exposés de Daniel Cohn-Bendit en 68. Ça va durer pendant 30 ans cette histoire, Sarah Kaminski. Mais peut-être pour parler justement de cette histoire de procédés et de techniques, finalement ce n'est pas un hasard, c'est aussi ses talents artistiques et ses talents aussi de chimiste qui ont permis à votre père, avec son regard aiguisé, de fabriquer tous ces faux papiers.
Oui, absolument. En fait, il était autodidacte parce qu'il a dû arrêter l'école après le certificat d'études primaires, comme on faisait quand on était pauvre et qu'on pouvait pas poursuivre ses études. Mais il était passionné, il adorait apprendre, il a appris comme ça en travaillant chez un chimiste, puis chez un teinturier, toutes ses compétences techniques, et notamment il s'est passionné pour tout ce qui concernait la couleur. Et donc tout ce qu'il avait appris sans savoir à quoi ça servirait un jour lui ont permis de reprendre le laboratoire de faux papiers de la 6e à Paris. Et c'est vrai que en réalité, ce qui est drôle et intéressant dans le fait que ce soit une exposition faussaire et photographe, c'est que il a fait son premier cliché photographique pour faire des faux papiers. Il a dû apprendre la photographie pour faire des faux papiers. En réalité, il rêvait d'être peintre, donc tout à coup, il a découvert qu'il pouvait aussi faire de l'artistique et de l'image avec la photographie.
Alors, il y a eu un événement traumatique au départ de son activité de faussaire, c'est cet enfermement à Drancy. Votre père est d'origine juif russe, puis exilé en Argentine, donc avec la nationalité argentine, et finalement, il est déporté à Drancy, mais il va en sortir.
Il en sort grâce à sa nationalité argentine et grâce au fait que l'Argentine avait des accords commerciaux et diplomatiques avec l'Allemagne nazie. Donc, ils étaient une population protégée. On ne pouvait pas rester plus de 3 mois au camp de Drancy. Donc, il a réussi à sortir grâce à ses papiers, ses vrais papiers argentins. Et malheureusement, quelques semaines plus tard, il est arrêté de nouveau. Et cette fois-ci, c'est le jour de la fin des accords diplomatiques. Et il y a un quiproquo lorsqu'il arrive au camp de Drancy où on dit non, ils ont été libérés, il faut les relâcher. Alors qu'en réalité, ils auraient été déportés s'il n'y avait pas eu ce quiproquo. Si bien que là, ils étaient en danger, il fallait eux-mêmes qu'ils trouvent des faux papiers. C'est comme ça qu'il a été recruté.
Alors, il a été recruté par la résistance, on se rend compte qu'il est teinturier, et finalement, qu'il peut effacer les couleurs, mais ce n'est pas ce qu'il va faire. Il va créer ses propres procédés, qui sont des procédés, d'ailleurs, qui ne sont pas sans rapport avec ceux de la photographie aussi, photographie argentique de l'époque, Amaury da Acunha.
Ce côté
concret, les mains justement
c'est ça,
dans l'encre.
Oui, vous avez raison, parce que souvent avec la photographie, on pense au regard, mais c'est d'abord un travail un travail de laboratoire, on travaille avec les mains, on travaille avec les chimies. Et c'est vrai qu'il a été familiarisé avec ces outils pour la teinturerie, mais c'est évidemment par la force des choses. Parce que j'imagine que les images faites, c'était pour des portraits d'identité à cette époque-là.
Des portraits, Kaminski.
Portraits d'identité, mais également des tampons, reproduire des tampons à l'identique, donc des procédés de photogravure, voilà. Et voilà, les premiers clichés qu'il a fait, il s'entraînait à prendre en photo les quelques camarades qui faisaient partie du laboratoire ou de faire des autoportraits. Mais c'était plus pour s'amuser qu'autre chose.
Alors, il y a les photos prises très sérieusement pour faire les faux papiers, en revanche, pendant la guerre. Et très vite, il va révolutionner les procédés de ce laboratoire parce qu'il va devoir fabriquer des machines qui elles-mêmes vont permettre de faire un papier vieilli, de vrais faux papiers, parce que les méthodes ne lui convenaient pas.
Oui, il fallait absolument que les papiers soient indétectables. Et alors, au tout départ, il faisait de la falsification. C'était ce qu'on faisait dans ce laboratoire. Sauf que la demande est devenue telle qu'il s'est dit, il va falloir fabriquer. On ne peut plus falsifier. Il faut fabriquer vraiment des papiers. Donc, il a mis en place tout un laboratoire, effectivement, qui permettait de vieillir un papier, d'en transformer un, de reproduire tous les tampons au fur et à mesure que, en plus, les techniques devenaient de plus en plus compliquées.
Je me souviendrai toujours de la plus grande demande de papier qu'on nous ait faite. 300 enfants. Cela voulait dire plus de 900 documents différents réalisés dans un délai de 3 jours. C'était pas possible. Il fallait que je reste éveillé le plus longtemps possible. Lutter contre le sommeil. Le calcul était simple. En une heure, je fabriquais 30 faux papiers. Si je dormais une heure, 30 personnes mourraient. Plus que tout, j'avais peur de l'erreur technique, du petit détail qui aurait pu m'échapper. De chaque document dépendait la vie ou la mort d'un être humain. Alors j'ai travaillé jusqu'à tomber dans les pommes. Quand je me suis réveillé, j'ai continué à travailler. On ne pouvait pas s'arrêter. On a terminé les papiers, mais de justesse.
Sarah Kaminski, c'est la voix de votre père, Adolfo Kaminski, qu'on entend ici. C'est l'extrait d'un documentaire du New York Times de 2016. Et on l'entend raconter justement ces commandes qui s'empilent et ce challenge quotidien et de cette vie clandestine aussi qui accompagne cette vie de faussaire.
Oui, en fait, c'est vrai que voilà, il avait seulement 17 ans et une responsabilité de vie ou de mort sur énormément de personnes. Et je pense que c'est sans doute ce qui explique qu'il ait continué de faire des faux papiers après la libération de Paris. C'est-à-dire que quand tous les autres du laboratoire, qui étaient des jeunes gens de la vingtaine, 20-25 ans, ont repris leur vie, une vie normale, lui, il n'a pas pu se réadapter à une vie normale. Il a fallu qu'il continue d'en sauver. Et il y avait quelque chose, je pense, qui est très moteur chez lui, qui est finalement, s'il a survécu, il ne peut pas avoir survécu pour rien.
Alors votre père a aussi raconté que beaucoup d'anciens résistants se sont suicidés aussi après la guerre. Lui, il a d'une certaine manière continué le combat. D'ailleurs, dans l'imaginaire photographique, Amaury da Acunha, que l'on voit émerger dans les premières photos que l'on voit exposées, puisque les expositions ont commencé tardivement d'Adolfo Kaminski, on voit cet imaginaire qui le poursuit, des trains, de la fumée, des hommes barbus que l'on a rasés ensuite.
C'est ça qui est tout à fait intéressant dans les images qu'il fait, qui ne sont pas des images autobiographiques, mais néanmoins, on devine effectivement une transposition de hantises qui sont liées à une période, cette période terrible. Effectivement, les trains, ils photographient parfois Paris comme des scènes de crime. C'est comme ce que disait Walter Benjamin des photos d'Alger. Il y a quelque chose un peu de ça. Il y a quelque chose, ça n'a plus rien à voir, mais on ne peut pas. C'est pour ça que je parlais de l'importance de son histoire. Il y a des échos indirects qui se font dans une certaine forme de perception du monde dans ces photographies-là. Il y a beaucoup de. On peut tout à fait imaginer d'abord que ce sont des images un peu pittoresques, mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a aussi le désir dans les images de sauver quelque chose, quoi. Cette volonté qu'il avait avec ses faux papiers de sauver des êtres, et avec la photographie, c'est sauver des apparences un peu d'un Paris qui d'un Paris retrouvé, parce qu'il en a été privé, et dans ces images-là, sont fabuleuses pour ça. C'est que c'est les petits métiers, c'est sauver des apparences un peu du réel, quoi.
Alors d'autant plus qu'il y a justement cette idée de fantôme du passé, non seulement ce qu'il a pu sauver, mais on a pu entendre dans les archives de ce documentaire tous ceux qu'il n'a pas pu sauver avec cette hantise. Il y a aussi tous ces absents. Vous-même, vous avez dit il est impossible de faire le compte exact des gens sauvés. D'ailleurs, il ne pouvait pas en garder la trace pour des raisons de sécurité.
Absolument, il pouvait ni garder la trace, ni garder d'ailleurs les papiers, puisqu'évidemment, parce que souvent on nous demande, mais alors où sont tous ces papiers ? Mais ces papiers, les gens les ont conservés, bien sûr. Lui, il ne rencontrait pas les personnes à qui il fournissait des papiers. Il donnait les papiers à des agents de liaison, et puis après, il espérait que les papiers arriveraient à bon port, et que ces personnes-là seraient réellement cachées et survivraient. Il ne pouvait pas après faire tracer, en fait, le résultat ou non de son travail.
Alors, cette vie de faussaire et cette vie d'artiste en parallèle. Alors la vie de faussaire a révélé l'artiste et en même temps l'artiste a dû rester en retrait de par sa clandestinité qui a duré 30 ans. Il a continué à s'engager après la guerre, d'abord auprès des Algériens.
Oui, tout à fait. Il s'est engagé auprès des Algériens. Il faisait partie du réseau Janson, donc d'un réseau d'intellectuels français essentiellement qui se sont engagés pour la cause algérienne et pour l'indépendance de l'Algérie. Après, par la suite, il a continué de faire des faux papiers pour tous les pays qui étaient en voie de décolonisation, mais aussi pour les pays qui étaient en voie de libération en Amérique latine. Il a aussi fait des faux papiers contre les dictatures européennes de l'époque, hein, donc Portugal, l'Espagne, la Grèce. Voilà, il a effectivement continué de faire des faux papiers chaque fois qu'il a senti qu'il pouvait sauver quelqu'un. Mon père est un pacifiste, il s'est jamais servi d'une arme. Voilà, donc c'était sa manière de s'engager.
Alors à côté de ça, il avait un métier. Une fois qu'il est rentré à Paris, il avait un métier. Donc il était photographe, mais pas tout le temps. Il a aussi travaillé comme éducateur de rue.
Oui, il a travaillé comme éducateur de rue bien plus tard, hein, quand nous sommes venus en France. Donc ça faisait 10 ans qu'il faisait plus de faux papiers. Mais c'est vrai que le paradoxe, c'est que toute sa vie, il a gagné sa vie en faisant de la photo, en étant photographe. Mais en étant photographe, plutôt un technicien, c'est-à-dire qu'il faisait des cartes postales, il faisait des reproductions d'œuvres d'art pour des catalogues, il faisait des décors de cinéma, il a travaillé pour Troner, mais jamais il n'exposait ses photos artistiques comme l'aurait fait un artiste. Il ne pouvait pas apparaître dans la lumière tout en faisant un travail clandestin.
Amaury Dacuna, on parlait de papiers d'identité exposés comme des œuvres d'art. Il y a cette idée aussi de la période où les papiers étaient entre guillemets falsifiables, ou en tout cas ils étaient des documents de papier et d'encre, avec la question de ce qui est effaçable, ce qui ne l'est pas. Votre père Sarah Kaminski dit que tout est effaçable. Il y a aussi ce côté artisanal qui est exposé dans les vitrines.
Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas séparer. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce travail sur l'image, il a un intérêt artistique, mais il a aussi cet intérêt comme des traces de l'autre vie. Et on peut pas leur accorder, je pense, le même statut, parce que c'est des documents annexes, mais c'est indissociable. Je pense vraiment ces deux parties de sa vie. Je sais pas si si je réponds à votre question.
Dans les photos exposées, il y a aussi les outils, les métiers manuels. On sent qu'il y a une importance aussi liée à la matérialité, à l'aspect concret de la fabrication.
Mais c'est ça qui le passionne. Et d'ailleurs, Sarah ne me contredira pas. Sous la Résistance, il était appelé le technicien. Et c'est vrai qu'il est resté dans son rapport à la photographie. Il dit qu'il a refoulé pendant longtemps cette fibre artistique. Mais ce qu'il aimait aussi, par-dessus tout, c'était expérimenter des choses. Chaque expérience d'image était pour lui, je crois, une sorte de défi. Lorsqu'il travaille pour Trauner, son boulot de photographe consistait à faire reproduire des faux décors à échelle 1. Donc, dans ce film, dans un film de Marcel Carnet, je crois que c'est Juliette ou la Clé des songes, il reproduit à échelle 1 une forêt. Donc, c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il y a ce rapport à la photographie qui est un rapport de défi technique à chaque fois, que ça soit des reproductions de ses amis, des peintres de l'art cinétique, que ça soit, comme on disait, pour le cinéma. Puis, à côté de ça, c'est ça qui est intéressant, c'est le livre et c'est partie plus intime de son travail.
Il y a aussi dans les objets de photographie choisis une dimension assez classique de l'époque, un côté douaneau, la représentation des éclusiers, du canal Saint-Martin, des petits métiers d'un Paris populaire qui est conservé aussi dans cette après-guerre.
Alors c'est ça qui est très intéressant. C'est effectivement, quand on regarde ces images, on ne peut pas s'empêcher de penser, dans l'histoire de la photographie, à des images de Willy Ronis, à des images de Brassailles. Alors, comme c'est quand même un drôle de bonhomme, il nous dit qu'il n'avait aucune culture visuelle. Je ne le pense pas. Je pense que c'était quelqu'un qui était plus informé qu'il ne le disait sur ce qu'il avait pu aimer ou découvrir dans l'histoire de la photographie.
En tout cas, en tant qu'autodidacte, Sarah Yaminski.
Oui, c'est-à-dire qu'après, évidemment, il a découvert le travail de ses pères et de ses aînés au fil de l'eau. Mais c'est vrai que, en revanche, au moment de la libération de Paris, quand pour la première fois il sort avec son appareil photo et qu'il va faire des photos la nuit avec un ami, un ancien faussaire aussi, et qu'ils vont sur les toits, etc., et qu'ils commencent à prendre des photos, à ce moment-là, il n'a aucune connaissance d'aucun travail photographique fait par ailleurs, par d'autres que lui, puisqu'il a 18 ans et il sort d'un enfermement total, puisqu'il était dans une chambre de bonne à faire des faux papiers.
Alors, est-ce que c'est pas ça, justement, Amaury Dacuna? Est-ce que c'est pas un regard aussi d'époque lié à ce contexte à la fois d'enfermement, de guerre, à la proximité des toits? Il y a ces vues des toits de Paris, justement, qui rappellent ce travail aussi des douaneaux?
Bien sûr, oui. Je pense que c'est lié à l'époque. Il y a évidemment Paris la nuit, le livre de Brassailles, je crois qu'il date des années 30. Il y a une certaine manière de photographier Paris.
Paris mouillé, Paris avec les pavés.
Mais en même temps, il y a beaucoup d'inquiétude dans ces images. C'est ça que Paris est vide. Paris, on n'a pas un rapport c'est pas Paris vitalisé, c'est pas Paris joyeux. Il y a quelque chose de très mélancolique parce que c'est après la guerre, et comme s'il y avait à travers ces images, dans les déambulations de Kaminski la nuit, comme s'il y avait, pas qu'il était traqué, mais on sent une forme d'inquiétude très forte dans ces images liées à la ville. Et les photos les plus fortes, laissent progressivement la lumière du jour venir dans ces images, en photographiant les quais de Seine, les petits métiers, les petites gens, des vies minuscules. Mais les premières images sont vraiment sidérantes. On ressemble à certaines photographies d'Adjé. Elles sont vraiment très frontales, très neutres, un peu glaciales, glaçantes.
Avec ce noir et blanc.
Et avec un noir et blanc très, très contrasté, très charbonneux. Il y a plusieurs. On sent qu'après, le goût de la vie, retrouver sans doute des influences sur sa manière de photographier et d'inclure notamment des personnages.
Qu'est-ce qu'on peut dire des scènes qui sont décrites? Vous avez fait allusion, on a fait allusion aux petits métiers, aux passants. Il y a des scènes parisiennes typiques, mais il y a aussi ces autoportraits qu'on a commencé à évoquer et ces hommes barbus.
Les hommes barbus, ça
c'est... Il y en a beaucoup des hommes barbus dans cette exposition, Sarah Kaminski.
Il y a beaucoup d'hommes barbus dans l'exposition parce qu'il y a beaucoup d'hommes barbus dans ses photos. C'est-à-dire qu'il continue à photographier des hommes barbus. Il l'est lui-même, voilà, il porte une barbe. Et c'est vrai qu'il a été très traumatisé lorsqu'il était à Drancy. Il a vu un couple arriver, qui venait d'être arrêté et interné. Un couple, voilà, qui avait l'air d'avoir beaucoup de
dignité. Lui, il avait une barbe à la Victor Hugo. Il présentait très très bien. Et puis le lendemain, il a vu passer le même couple et il avait l'impression que ces deux personnes avaient rétréci, qu'ils étaient rabougris et ils étaient rasés. Et il avait donc plus sa barbe. Et pour lui, pour mon père, il était déjà mort. Et donc du coup, ça l'a traumatisé, de voir comment cet homme à qui on a pris sa barbe, sa dignité, s'est retrouvé déjà mort. Et par la suite, voilà, il a une fascination pour les barbes et il photographie beaucoup de barbus.
Amaury Dacuna, il y a cette idée d'espace vide, vous avez commencé à l'évoquer, à travers le vide, il y a une manière justement de raconter cet après-guerre, de raconter les absences et de raconter aussi ce que l'on ne peut pas encore photographier.
Ou alors ce qui ne s'autorise pas encore lui-même à photographier peut-être. Parce que moi, ce qui m'a vraiment sidéré, ce qui m'a intéressé, quand on m'a demandé d'écrire ce texte, ce qui m'a intéressé, c'était évidemment la corrélation entre ces années d'enfermement et la libération, et sortir du bureau, sortir du... et aller dehors. Et on sent la progression un peu timide. Et c'est ça où il s'autorise progressivement à se rapprocher des gens. Et comme il le dit lui-même... comme il est profondément honnête, c'est d'une espèce de magnifique loyauté à l'égard du monde extérieur. Quand il photographie des gens, il ne vole pas les images. Il demande la plupart du temps. Il y a des photos volées parce qu'il est assez, il aime bien se cacher, mais il aime aussi demander à l'autre pour donner une image, offrir une image à l'autre. Il faut que l'autre participe à l'élaboration de la photo. C'est pour ça qu'il y a des très très beaux portraits avec des visages qui regardent l'objectif parce qu'il on fait pas une image tout seul. Il y a un échange humain et certaines de ces photographies le manifestent d'une manière très très poignante et émouvante dans l'échange. Et ça, c'est venu, je pense, un peu plus tard. C'est des images d'un univers photographique qui se peuple progressivement.
Oui, avec des personnages qu'on va voir de plus en plus frontalement. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'après-guerre, ces images la nuit sont parfois un Paris totalement vide, mais il y a souvent une silhouette quelque part, il faut la chercher, elle est très très loin.
Un peu flou parfois d'ailleurs, voilà. Il y a un travail sur le flou aussi.
Ou alors sur l'absence, la présence, avec une double photo, parfois un banc avec des amoureux dessus, le même banc avec l'absence de ces amoureux-là. Et puis petit à petit, effectivement, il se rapproche des gens, et là, il va à leur contact, et il leur demande s'il... peut les photographier.
Alors dans cette exposition, il y a aussi le documentaire qui est projeté, le documentaire vidéo, et il y a cette histoire qui est racontée, que vous avez vous-même, Sarah Kaminski, racontée dans un livre publié chez Kalman Levy qui s'appelle Adolfo Kaminski, une vie de faussaire, et vous avez raconté ce livre à la première personne, comme si vous étiez la voix de votre père qui racontait son histoire.
Oui, ça a été un choix, c'était pas le premier choix que j'avais fait. Au tout départ, j'ai commencé à l'écrire à la troisième personne et au passé, et puis finalement je n'arrivais plus à écrire, et jusqu'à ce que je comprenne que d'une certaine manière, parler de lui au passé à la troisième personne, c'était comme nier qu'il était encore en vie. Et donc j'ai eu besoin de lui donner la parole, et j'ai eu besoin aussi d'être au plus proche de la réalité de ce projet, c'est-à-dire que c'est une fille qui demande à son père de se confier, et lui il le fait parce que sa fille lui demande. Donc du coup voilà, c'était pas chez lui une démarche de mise en lumière justement, toujours pas. Il le fait parce que il était convaincu, parce que je l'ai convaincu qu'il fallait que son histoire soit dite et qu'elle pouvait toucher des gens.
Alors cette histoire est racontée longuement dans cette biographie, de manière plus courte dans le documentaire de New York Times. Comment justement est-ce que cette histoire, elle a été déclinée sur aussi sur ces deux supports-là? Comment ça s'est passé, cette histoire de documentaire au New York Times?
Le New York Times, le livre venait de paraître aux États-Unis, et puis au tout départ au New York Times, ils voulaient juste faire un article, et puis petit à petit ils ont lu le livre et puis ils se sont dit non, on peut pas faire juste un article, on va faire un petit documentaire qui devait durer 2 minutes, puis au final ça dure 15 minutes et puis
Alors avec des silhouettes qui retranscrivent sa jeunesse comme une sorte d'animation en noir et blanc.
En ombre chinoise, donc en plus je trouve que ça parle beaucoup de lui, avec cette idée de l'ombre, la lumière encore une fois. Ils ont fait un travail remarquable, y compris de composition musicale.
Cette histoire, vous-même, Sarah Kaminski, en tant que fille, vous l'avez recomposée petit à petit. Alors, de par son témoignage, mais aussi une sorte d'enquête que vous avez menée. Comment est-ce que vous avez compris, justement, l'évolution de cette histoire? Il y a eu la période de la guerre, la période de la clandestinité, mais cette clandestinité, elle a continué après la guerre. Et finalement, votre père s'est caché presque toute sa vie.
Oui, et d'ailleurs, c'est en se cachant qu'il a rencontré ma mère et que et qu'il a fait, enfin mes frères et moi, bah oui, il s'est caché presque toute sa vie. Lorsqu'on est venu en France, évidemment, il ne parlait pas du tout de ses activités clandestines. Seules les personnes avec qui il avait travaillé étaient au courant. Et il essayait de nous préserver, évidemment. Hein. Ces activités-là étaient illégales, il n'y avait pas prescription. Donc il risquait encore la prison hein, quand on est arrivé en France.
Alors expliquez-nous ça un peu plus en détail. Pendant la guerre, c'était d'abord la résistance juive qui l'engageait.
Oui.
Après la guerre, il a fait partie des services secrets ?
Oui, absolument. Il a travaillé pour les services secrets, alors pas après la guerre, mais juste après la libération. La guerre n'était pas finie et son travail consistait à faire des faux papiers pour des espions, des espions français qui devaient aller du côté allemand faire justement un travail d'espionnage. Donc c'était des parachutages derrière les lignes allemandes. Donc il a été faussaire d'État jusqu'en 45, voilà. Et il a quitté le ministère de la guerre lorsqu'on lui a demandé de commencer à faire un travail pour la guerre d'Indochine.
En tant que pacifiste, il l'a pas accepté.
Oui, et au fond, je pense qu'il était d'accord avec les Indochinois plutôt qu'avec la France dans cette guerre coloniale. Alors, on disait pas à l'époque qu'on était anticolonialiste parce que ça n'existait pas comme mot, mais en fait, il l'était.
Alors, d'une certaine manière, il est devenu faussaire indépendant, si tant est que ce mot ait un sens, à Kaminski.
Oui, on peut dire ça. Enfin, il est devenu faussaire, pour que des causes humanitaires, évidemment. Il a toujours refusé d'être payé pour son travail de faussaire. C'est la raison pour laquelle il faisait du travail photographique à côté pour pouvoir gagner sa vie, qu'il gagnait extrêmement mal. Voilà. Et qu'il a fait, jusqu'en 71, fin 71, où il décide, parce qu'il se sent possiblement recherché par la police, il sent qu'il y a un problème, il décide fin 71 de partir se faire oublier un an en Algérie.
Alors on va écouter justement l'extrait d'une émission de 2009, c'était sur France Inter, et c'était Entre chiens et loups.
Pourquoi l'Algérie ? Je ne connaissais pas d'Algériens, mais quand j'ai vu la torture et les méthodes fascistes que nous avons subies de la part de l'Allemagne fasciste et même de la France fasciste de Pétain, j'ai trouvé ça inadmissible. Et puis, à l'école primaire, je n'ai que mon certificat d'études primaires, j'ai appris liberté, égalité, fraternité. Et pour moi, je l'ai appliqué. Et je ne voulais pas avoir honte pour la France, que je me considérais comme français, que je n'étais pas. Mais pour moi, il était inadmissible que la France utilise des méthodes fascistes. Et c'est comme ça que aussi, c'était aussi de sauver les Algériens qui étaient exécutés. C'était en majorité des intellectuels ou des avocats ou des gens d'une certaine culture qui étaient systématiquement détruits. Donc il fallait les sauver.
Sarah Kaminski, c'est encore votre père qu'on entend là, Adolfo Kaminski. Donc c'est l'engagement d'une vie. Comment est-ce que justement il est passé des services secrets à faussaire pour les Algériens pendant l'indépendance? Comment est-ce que justement son activité a pu se transformer? Comment est-ce qu'il a pu ne pas être tellement inquiété à cette période-là?
En réalité, la personne qui lui présente les membres du réseau Janson, c'est une femme qui s'appelle Marceline Loridan, qui est décédée, qui, comme mon père, avait vécu sous l'occupation, d'ailleurs, elle, plus gravement, parce qu'en fait, elle était internée à Birkenau, et elle-même était engagée en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Donc, il a rencontré les personnes du réseau Janson. Comment il réussit à ne pas se faire arrêter? C'est-à-dire que lui, il a conscience, il a la connaissance de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. La moindre erreur conduisait à la mort, notamment d'enfants. Hein. Lui, il s'occupait de sauvetage d'enfants essentiellement. Donc, il a toujours eu des règles extrêmement strictes de sécurité.
Alors, quelles étaient ces règles? Il apprenait des listes par cœur.
Il apprenait des listes par cœur. Jamais de téléphone. S'il devait donner des rendez-vous au téléphone, il y avait des messages codés pour dire que, par exemple, un mardi devenait un dimanche et que 15 heures 17h devenait 18h. Enfin, tout était comme ça. Et un coup de téléphone, si recevait une seule sonnerie suivie de nouveau un coup de téléphone, bah c'était un appel dont il fallait se méfier. Enfin, il avait toute une liste de codes de sécurité, de cloisonnement. Il ne voulait avoir affaire à un seul agent de liaison, ne surtout pas rencontrer les autres personnes. Donc il a imposé ça au réseau Janson.
Donc à cette époque, il a encore travaillé en réseau, et par la suite, lorsqu'il a travaillé pour l'Amérique latine, qu'il a défendu un certain nombre de réfugiés aussi, est-ce que ça a été toujours un système de réseau qui s'est mis en place autour d'Adolfo Kaminski?
Toujours. C'est-à-dire qu'après, il a travaillé pour le réseau Curiel, mais il avait toujours un seul agent de liaison qui lui-même ne travaillait pas que pour le réseau Curiel. Il travaillait pour différents réseaux clandestins, et donc il ne voulait avoir affaire qu'à lui. Et c'est effectivement à la fin de l'année 71, quand tout à coup cet homme en qui il avait totalement confiance disparaît. Il n'arrive plus à le joindre. Il continue d'avoir des demandes par ailleurs, par d'autres biais. Là, il a senti qu'il y avait du danger, et donc il a décidé de partir avant d'être arrêté.
Amaury Dacuna, est-ce que cet engagement politique et cette vie secrète, cette vie cachée, transparaît dans ces photos? Alors, on a parlé du monde de la nuit, on a parlé des photos prises le soir. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de ce mystère-là?
Mais quand on photographie, déjà, on est retranché, on est caché déjà. On est caché derrière... Évidemment, on peut être visible, mais on est déjà caché derrière l'appareil.
D'au moins un œil.
D'au moins un œil. Et d'ailleurs, à propos de cet œil, c'est ça, pour quelqu'un qui est devenu le photographe avec cet œil de lynx, a perdu un de ses deux yeux pendant la guerre.
À force de travailler.
À force de travailler. Déjà, c'est une chose. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que vous parlez de la dimension cachée. Donc, évidemment, cette activité secrète. Et la photographie, il a un rapport plus confidentiel. C'est ça que j'aime bien, c'est le passage du secret à une activité un peu intime, confidentielle. Donc, il peut pas révéler l'existence parce que ça, c'est dangereux pour lui en tant qu'homme public. Mais néanmoins, on sent aussi que c'est un jardin secret. Donc, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce lien entre la première et la seconde vie. On reste toujours dans la discrétion, on reste toujours dans la prudence, dans cette espèce de tâtonnement. Il est retranché, quoi.
Alors, on entendait Adolfo Kaminski dire tout à l'heure son engagement pour la justice, liberté, égalité, fraternité, ce qu'il avait appris à l'école et qu'il ne voyait pas appliquer. Il y a ces photos aussi de gens dans la rue, des photos de pauvreté aussi que l'on retrouve. Il y a cette photo d'un homme couché au sol. On voit ces traces-là d'une forme d'engagement plutôt humaniste, Amaury Dacuna, pour ne pas le qualifier politiquement.
Non, mais vous avez raison. On parle, la photographie dite humaniste a une histoire. Et c'est vrai que photographier les petites gens, il les photographie sans misérabilisme. Il fait exister par l'image des gens qui sont ce que Michaud appelait ces vies minuscules dont on parlait tout à l'heure. C'est ça qui est très beau.
Y compris les enfants d'ailleurs.
Oui,
qu'il a sauvé en grande partie. Il y a
cette photographie en particulier est magnifique et terrible. On voit, je crois me souvenir, trois enfants. Et la légende est éloquente. C'est des enfants qui viennent d'apprendre que les parents ne reviendront pas du camp. Mais on ne sait pas tellement plus. C'est ça que j'aime dans ces images, c'est qu'elles ont des secrets. Quand on parlait aussi de la façon de se cacher, c'est que les images sont aussi très secrètes. Il y a très peu d'informations. On sait que on a 1946, Paris. Et c'est ça qu'on a voulu faire dans ce livre, c'est faire en sorte que ces images demeurent aussi mystérieuses, à l'image même de cette vie étrange.
D'Adolfo Kaminski. Oui. Sarah Kaminski, il y a aussi des photos de port de Marseille. Il y a des photos aussi qui sont liées à l'exil, à la migration, qui sont liées aussi à ces épisodes douloureux de l'après-guerre vers la Palestine puis Israël. Qu'est-ce que vous pouvez raconter de ça? C'est son histoire aussi à votre père, Adolfo Kaminski, une histoire de grande migration de la Russie à l'Argentine pour revenir à la France.
Oui, c'est-à-dire que c'est l'histoire de ses parents d'ailleurs, hein, qui ont vécu des exils répétitifs parce qu'ils ont quitté chacun la Russie pour la France, puis ont dû quitter la France pour l'Argentine à cause de convictions politiques marxistes de son père. Puis finalement, de l'Argentine, ils ont souhaité revenir en France. En réalité, ils ont été expulsés Donc, ils sont partis 2 ans en Turquie. Donc, mon père qui est né en Argentine, qui a voulu revenir en France avec ses parents, a dû passer 2 ans en Turquie avant d'arriver. Donc, en fait, tout ça pour des questions de papier. Qu'il n'avait pas. Donc en fait tout est lié, il y a comme ça quelque chose de la question de la frontière pour lui et de l'injustice, elle est prégnante.
Il y a d'ailleurs une question qui a été Amaury Dacuna beaucoup creusée par les arts plastiques et la photographie ces dernières années, les photographies de camps, de réfugiés, de Calais, mais aussi de tous les camps que l'on a pu voir en Europe. C'est une question qui est devenue centrale dans la photographie.
Oui, c'est une question évidemment centrale, mais chez lui, c'est quelque chose qui est finalement assez minoré, quoi. Il fallait affirmer, dépasser peut-être un petit peu aussi cette histoire, essayer de. Évidemment, il y a ces images qui sont magnifiques, et quand on les voit dans le port de Marseille, par exemple, on pourrait tout à fait les trouver pittoresques, et comme le dit Paul Salmona dans la préface du livre, ce ne sont pas des images de touristes, ce ne sont pas des touristes, hein. mais la dimension politique, elle est là, mais je pense quand même que chez lui, il y a une volonté de il s'est tellement retranché, il a tellement donné pour les autres, qu'en photographiant, il y a une tentative d'essayer de s'affirmer soi-même et d'essayer d'affirmer aussi un regard qu'on pourrait dire, sans avoir peur du mot, un regard poétique aussi sur le monde. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. C'est comme s'il fallait enfin quand même qu'il lui reste quelque chose pour lui, quoi, de ce passage sur cette terre, quoi.
Et Sarah Kaminski, il y a aussi tous les gens qui l'a formé, puisque votre père était un des grands faussaires aussi de son époque. Je vous propose d'écouter Hipólito dos Santos, qui était formé justement au travail de faussaire par lui. Et c'était dans l'émission Là-bas si j'y suis sur France Inter en 2010.
Je l'ai rencontré en 69. À l'époque, j'étais dirigeant d'une organisation de lutte contre le régime des dictatures qu'il y avait au Portugal. Et il fallait toujours des faux papiers pour pouvoir entrer et sortir du pays. Et c'est là que j'ai rencontré Adolphe. Plutôt que de faire des faux papiers, on était plutôt intéressé à qu'il nous aide à mettre en place un système pour résoudre ces problèmes. C'était un excellent professeur. J'ai moi-même ensuite formé d'autres copains en portugais et qui ont pu continuer à faire ce travail-là.
C'est vrai, Kaminski, il y a eu ce travail de filiation aussi du faussaire pour des causes nobles. Alors là, c'est le Portugal, évidemment.
Oui, bah il y a eu le Portugal, il y a eu la Grèce, il y a eu l'Espagne. Il a eu beaucoup d'élèves qui après, du coup, pouvaient de manière totalement indépendante, sur place, dans leur pays, faire des faux papiers. Alors pas des faux papiers, pas pour toutes les causes que lui avait, mais au moins pour leur cause à eux, quoi. Hein. Donc des faux papiers espagnols pour les Espagnols. Et effectivement, il a gardé contact avec un certain nombre d'entre eux.
Donc il allait les voir, il les formait.
C'est eux qui venaient le voir, ils étaient formés au laboratoire. Mon père veillait à ce qu'ils ne se rencontrent jamais. C'est-à-dire que parfois, il pouvait avoir 3 élèves dans une même journée sans qu'aucun d'eux ne puisse savoir que l'un travaillait pour une organisation quelconque. Il les faisait passer pour des clients. Et il avait cette chance d'avoir un grand laboratoire de photographie qui lui permettait d'avoir une double activité à l'intérieur.
Alors, l'histoire, c'est que personnellement, lui, votre père, Adolfo Kaminski, a demandé la nationalité française et que ça a été une sorte d'épopée que lui-même n'a pas bénéficié de faux papiers.
Non, c'est vrai que la première fois qu'il demande la nationalité française, c'est lorsque on arrive en France en 1982, donc avec lui, ma mère qui est algérienne, nous qui avons 3 ans, 5 ans, 7 ans et qui sommes algériens et argentin, et donc bien sûr ils ont dû quitter l'Algérie de manière un petit peu hâtive, on va dire.
Donc il est resté argentin jusque très tardivement, alors même qu'il travaillait au service de la France pendant des années.
Oui, alors il a surtout pas voulu accepter la nationalité française lorsqu'il était au service secret, c'est-à-dire qu'en fait normalement on n'a pas le droit de quitter un corps d'État comme celui-là. Et lui voulait partir pour ne pas travailler pour la guerre d'Indochine. Donc il a voulu poser sa démission. On lui a dit non, tu ne peux pas. Et lui il a dit en même temps vous ne pouvez pas embaucher un étranger dans les services secrets. Donc je vais partir. Donc il a gardé sa nationalité argentine, qui d'une part l'a sauvé de Drancy et qui d'autre part lui a permis de ne pas rester pour faire ce qu'il ne voulait pas faire au sein de l'armée française.
Alors, pour revenir à la photographie, Amaury d'Acunha, il a été exposé très tardivement à Adolfo Kaminski. Alors là, il y a aussi le livre « Changer la donne ». Il a été exposé à partir des années 2000-2006, les premières grandes expositions.
Il y en a eu, Sarah le sait mieux que moi, il y a eu, je crois, une première exposition en 2006 ou en 2008.
Oui, au Cercle Républicain.
Oui, il y a eu des petites expositions, ou en tout cas où il participait, par exemple, à des expositions collectives, des choses comme ça, avec quelques photos.
Et le Festival de Lectour, qui est un photographe de la jeune photographie, donc il s'est retrouvé au milieu de ce qu'on appelle la photographie émergente, à un âge plutôt avancé.
Donc, voilà, c'est ça.
Une reconnaissance. Il a aujourd'hui 95 ans.
Et, oui, exactement. Et lors de l'exposition, l'inauguration de l'exposition, il y a un mois, quand on arrive dans l'exposition, devant la Maison d'Art et d'Histoire du Judaïsme, il y a une immense image qu'il représente. Et il a été, je crois, bouleversé de se voir lui-même sur la devanture de cette institution. Et je pense qu'il a, comme il est très discret, il manifestait peu de paroles, parce que c'est un homme qui est... Les photographes sont des gens assez silencieux, souvent. Et c'était pour lui, je crois, une expérience assez extraordinaire d'avoir enfin... cette reconnaissance qu'il cherchait néanmoins, même si c'était quelque chose de très secret, cette production.
Mais alors, une grande salle représente dans l'exposition ces photos de cette période-là. Est-ce qu'il en existe beaucoup, Sarah Kaminski, des clichés non exposés encore de votre père?
Oui, il en existe des milliers. On ne sait même pas ce qu'il existe, puisque en fait, toute sa vie, il faisait des photos, il développait la pellicule pour ne pas qu'elle se perde, mais il ne tirait jamais les photos. Donc, nous-mêmes, en 2005-2006, lorsqu'on découvre les premières photos, on ne les avait jamais vues. On savait juste que, alors voilà, chez lui, il y a des boîtes et des boîtes et des boîtes remplies de pellicules développées. Il faudrait les prendre les unes après les autres et puis découvrir. Enfin, je pense qu'il y en a pour encore quelques années.
Vous n'êtes pas du tout au bout de votre travail de révélation.
Il y a plusieurs livres qui peuvent voir le jour encore.
À mon avis, oui.
Merci Sarah Kaminski et Amaury d'Acunha d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Vous pouvez aller admirer l'exposition Adolfo Kaminski, faussaire et photographe au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris jusqu'au 8 décembre prochain. Alors c'est l'identité en crescendo qu'on entendait avec Archie Shep et Rosset, votre frère Sarah Kaminski.
Oui.
Qu'on entend ici, votre frère dont votre père est très fier aussi, musicien, rappeur.
Oui, absolument.
Et là c'est pas du rap qu'on entend, c'est de la musique instrumentale avec un extrait de l'album du même nom justement, Identité en crescendo, sorti en 2006. À noter que dans le cadre du festival Jazz à Vienne aujourd'hui s'ouvre une exposition consacrée au travail récent de votre frère Rosset, par les damnés de la terre, des voix de lutte 1969-1988, et elle se tiendra jusqu'au 12 juillet.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Bienvenue sur France Culture, si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie de la grande table d'été, avec comme invité Julien Clerc. Après avoir fêté ses 50 ans de carrière, il le sait bien que le temps passe, mais ce n'est rien. Julien Clerc court toujours comme un fou, c'est le nom qu'il lui donne, il court de scène en scène, et telle la cigale chantera tout l'été. Laissant entrer le soleil, la voix fidèle, portant aux oreilles du public un 24e album, À nos amours. Des musiques qu'il a lui-même composées bien sûr, sa préférence, et qu'il transmet aussi à un public le rejoignant indéfectiblement sous son arbre. Un arbre où il fait bon chanter, vivre et rêver. Julien Clerc est l'invité du portrait de la grande table d'été. Julien Clerc, bonjour.
Bonjour.
On parle de musique à composer et musique à transmettre aussi. C'est toujours là le cœur de votre métier. Pour vous, on pense toujours à l'interprète, mais c'est la composition qui pour vous est première?
Bien sûr. Tout dépend des chansons, en fait. Et ma part de travail, c'est la composition. Après, il faut que je trouve des auteurs qui mettent des mots là-dessus. Ou qui me donne des textes que je dois mettre en musique, du reste, ça dépend, c'est dans les deux sens. Mais c'est évidemment toujours le cœur de mon travail depuis le premier jour, parce que je crois que ce qui compte, c'est les chansons, et rien que les chansons. C'est ça qui décide du succès des scènes, de la prolongation ou non de la carrière, etc. C'est-à-dire de rester un musicien vivant, si on peut dire.
Pourtant, les auteurs, même si vous n'écrivez pas vos textes, vous faites des choix soigneux de textes et même vous passez des commandes. Alors, comment est-ce que ça se passe, ça? C'est des choix plutôt de personnes, de sujets?
Ouais, c'est des choix de personnes, plutôt. Et voilà. À qui je dis, t'as pas envie de m'écrire un texte? C'est aussi simple que ça.
Et comment est-ce que vous créez la cohérence, du coup, entre les chansons pour faire un album, par exemple?
Je crois que la cohérence, elle vient de la musique et de la voix. Mais ce que je leur demande, c'est d'oser, évidemment, d'essayer de ne pas refaire ce qui a été fait auparavant. Et voilà, d'écrire ce qu'ils ont envie. C'est tout ce que je leur demande. Je fais très, très, très rarement de commandes, de sujets. Mais vous voyez, mon actualité prochaine, ça va être d'enregistrer un album de duo, de reprise de mes anciennes chansons avec d'autres chanteurs. Un peu réarrangé pour la circonstance, réorchestré, on va dire. Je suis pas censé sortir un album inédit avant un certain temps. Bon, mais sur cet album-là, peut-être s'il y en a un deuxième d'ailleurs, il y aura quand même un inédit ou deux à chaque fois. Donc je continue d'écrire, et là j'ai reçu franchement trois textes sans que de trois auteurs différents. Sans que les auteurs ne se parlent entre eux, évidemment, parce qu'ils ne savent pas que j'ai demandé aux deux autres. Chacun ne sait pas que j'ai demandé aux deux autres. Et il se trouve que tous les trois ont eu une envie d'écrire de la chanson plutôt, on va expliquer ça, de fond. Pas de la chanson d'amour. Or, c'est amusant de voir que dans cette période de ma vie, trois auteurs à qui j'ai demandé des textes m'écrivent des textes, on va dire, qui, c'est pas le terme sérieux n'est pas bon, mais des textes qui ne sont en tout cas pas de la chansonnette d'amour. Donc, ouais, sans se consulter, ils ont fait ça tous les trois. Et comme j'ai envie d'écrire, de continuer d'écrire comme ça, tranquillement, pendant les mois qui viennent, je ne sais pas très bien quand je sortirai un album inédit,
Ben voilà, je demande aux auteurs, ils m'envoient des textes, je prends ou je prends pas. Mais ça s'est toujours passé comme ça d'ailleurs.
Mais est-ce que c'est pas une manière justement de saisir l'air du temps que de dispatcher sur un certain nombre de personnalités et au fond, ceux qui se ressemblent un peu ressembleraient à ce qui émergerait de ce qui se passe autour, Julien Clerc ?
Oui, c'est possible. C'est aussi le ressenti qu'ils ont de l'artiste à ce moment-là de sa vie et dans le paysage. Donc là, je constate qu'ils ont eu envie de me faire chanter ça. Une chanson plutôt, on va dire, de père de famille, l'autre, une chanson sur le rapport au public, et le troisième sur la communicabilité ou l'incommunicabilité entre les gens. C'est tout ce que je constate, je ne porte pas de jugement, mais vous avez raison, demandez à des auteurs qui sont d'ailleurs souvent de générations différentes, c'est aussi une façon évidemment de prendre l'air du temps, bien sûr.
Est-ce que ça vous amuse, ça, Julien Clerc, de voir l'image que les auteurs ont de vous, ce qu'ils imaginent, justement, comme mot dans votre bouche ?
Oui, beaucoup. Mais ça m'a toujours amusé. Je pense, vous savez, au début, je regrettais beaucoup de ne pas être auteur moi-même. Et je me disais, souvent, je me disais, oh là là, la vie serait plus simple si j'écrivais tout dans mes chansons. Je sais pas si j'aurais duré aussi longtemps en écrivant tout. Le fait de travailler avec des plumes nouvelles, des auteurs nouveaux, au fur et à mesure des années qui sont passées, je suis persuadé que c'est ce qui m'a fait rester vivant et, on va dire, créatif et frais comme compositeur.
Alors, des auteurs nouveaux, pas toujours, parce qu'il y a aussi une tradition que vous perpétuez, c'est celle de mettre, par exemple, des poèmes en musique.
Oui, mais c'est parce que j'adorais Brassens. Mais que j'adorais Ferré quand j'étais petit, ou en tout cas, même déjà adolescent, surtout Brassens, je veux dire, la façon dont, qu'il avait de prendre des poèmes et de les mettre en musique pour les transformer en chansons populaires. C'est cette leçon-là que j'avais appris toujours. Et.
Il paraît que d'ailleurs, vous l'avez découvert au fur et à mesure. Vous saviez pas que vos chansons préférées, c'était des poèmes au départ? Les vos chansons préférées de Brassens?
Par exemple, moi, il y en a une qui me vient toujours à l'idée, c'est Gasti Belza, l'homme à la carabine, qui est véritablement une musique très populaire. Je trouve un air qu'on peut siffloter sur une poésie de Victor Hugo. Je trouvais ça génial quand j'avais entendu ça pour la première fois, chez ma mère, du reste. Et donc, je m'étais toujours dit, si jamais je mets de la poésie en musique, l'exemple à suivre, c'est Brassens, quoi. C'est-à-dire de transformer ça en chanson, si possible. Et que, à partir de là, quand on évoquera cette poésie-là, l'air qu'on aura inventé viendra tout de suite sur les lèvres.
Et c'est ce pouvoir-là, justement, de transformation, vous, qui vous plaît, parce que vous prenez vos textes et vous en faites complètement autre chose. Alors, comment ça se passe au piano? Est-ce que vous composez toujours de la même manière? Est-ce que vous avez une technique au fur et à mesure du temps, ou est-ce que c'est toujours un tâtonnement?
C'est le côté artisanal de notre métier, je suppose. C'est une bonne question. Oui, je dois bien avoir une technique personnelle, évidemment. Je pense pas que tout le monde a la même, mais.
Comment vous faites? Quand vous lisez le texte, vous savez tout de suite si ça peut marcher ou pas?
Oui. Tout de suite. Tout de suite, ça peut marcher. Tout de suite, si j'ai envie de le faire, en tout cas. Ça, c'est certain. Si ça ressemble à une chanson ou pas. Il y a des poètes, par exemple, je me souviens un jour, il y a longtemps, je nageais à Paris au Racing et la femme de René Char nageait là aussi. Puis quand René Char est parti un jour, elle m'a dit « Est-ce que vous voudriez essayer de mettre des textes de mon mari en musique ?» Elle m'avait fait envoyer toute l'œuvre de son mari. Ce sont des textes qui sont difficiles pour moi à mettre en musique, en tout cas.
Ça tient à quoi ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est de l'idée que je me fais de la chanson, sans doute.
Parce que l'écriture aussi, c'est une question de musique. D'ailleurs, vous avez un rapport à l'écrit. Même si vous n'écrivez pas vos textes, vous avez bien un rapport à l'écrit et à l'écriture de ces textes et à leur musicalité.
Beaucoup. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je regarde le texte. Est-ce que j'ai envie de chanter ça? Et surtout, est-ce qu'il y a une musique qui me vient? C'est pour ça que j'en ai pas fait tant que ça, des poèmes. Pas beaucoup, parce que c'est difficile. Il y en a, j'en ai fait un ou deux qui ne sont jamais sortis et que j'ai oublié, d'ailleurs. J'avais mis en musique un texte de Victor Hugo qui était charmant, mais une œuvre de jeunesse, comme ça, qui s'appelait Jeanne, parce que ma fille venait de naître, elle s'appelait Jeanne, bon. Mais sinon, les textes que j'ai mis en musique, je sais pas, ça m'a semblé évident tout de suite. C'est, vous savez, c'est très difficile à décrire ce qui se passe quand je prends un texte. Je crois que ce qui se passe, c'est que le texte qu'on me donne, ça me suggère une idée de est-ce que ça va être une musique lente ou une musique rapide. C'est aussi bête que ça. Si par exemple il y a beaucoup de mots dans le texte, vous savez que dans les chansons, en plus, avec le temps qui passe, souvent, il y a certaines chansons, il y a de moins en moins de mots. Il y a des chansons où il y a encore beaucoup de mots. Mais je me dis, tiens, là, il y a beaucoup de mots, il faut que ce soit une chanson rapide, sinon elle va pas en finir, cette chanson, qu'elle va être assommante. Donc, vous voyez, c'est vraiment de la cuisine, c'est pas très romantique, mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis, la deuxième chose, je crois, c'est que dans le texte, et ça peut ne pas être forcément la première ligne. Dans le texte, il faut que je trouve une accroche qui me suggère une musique. Peut-être le refrain, par exemple. S'il y a un refrain, s'il y a une poésie où il y a quelque chose, des mots qui reviennent systématiquement, alors moi, je prends ça pour un refrain. Et des fois, il m'est arrivé de composer le refrain avant.
Alors, est-ce que c'est le retour d'un ensemble de phrases? Est-ce que c'est le retour d'un mot? Je sais que vous avez aussi un sens esthétique assez aigu. Julien Clerc, il y a des mots au départ qui vous plaisaient pas, qui pourtant ont été des grands succès. Je pense au mot utile. Mmh. Notamment, il y a cette histoire autour du mot utile. Si un mot ne vous plaît pas, en tout cas sa sonorité, ou si vous le trouvez banal, ouais, est-ce que ça peut changer la donne? Ou changer d'avis, a priori?
Mais je trouvais que ça faisait pas chanson utile. J'avais certainement tort, d'ailleurs. Mais.
Maintenant, on en est sûr, même.
Oui. Mais on est sûr. Mais en même temps, c'est ce qui m'intéressait dedans. C'est que je fais confiance à l'auteur aussi. Quand c'est Rodagil qui m'apporte utile, je me dis, il ne fait pas ça pour rien. Il m'apporte ça parce que il a envie de me faire chanter ça. Donc je lui fais confiance. Vous voyez? Mais quand c'est des auteurs, avec qui je n'ai jamais travaillé. Oui, il faut que le c'est bête, il faut que j'ai envie de chanter ça, voilà. Et après, je trouve une musique, forcément. Je trouve une musique qui est bien ou pas bien, ça c'est un autre problème. Mais je trouve toujours, si vous voulez, quand le texte m'appelle, je trouve toujours. Après, on verra si ça va être bien ou pas bien.
Est-ce que vous retouchez? Je veux dire, est-ce que parfois vous rajoutez un mot, une syllabe? Est-ce qu'il vous manque un petit truc pour la musique? Est-ce que vous, quand même, mettez votre petit grain de sel dans le texte, ne serait-ce que pour une question de rythme, pour une question musicale, Julien Clerc?
Alors, il y a des fois, par exemple, avec Rodagil, je remaniais énormément. Mais Étienne, il me disait toujours, tiens, Polo, tiens, prends ça, et puis fais-en ce que tu veux. Bon. Donc, il y avait des chansons, il y avait des refrains déjà, des chansons où il n'y en avait pas, alors il fallait que j'en invente un. Donc, je prenais dans les mots des mots forts qui me semblaient dignes de revenir, ou alors des mots qui avaient l'air de rien, comme si on chantait, par exemple, que je pouvais répéter un grand nombre de fois et faire un refrain avec. Il y a des fois, quand je prends un texte, quand on fait dans le sens où je mets un texte en musique, je ne rajoute pas des syllabes. Au contraire, le jeu, c'est d'essayer de respecter le texte et d'arriver à faire rentrer une musique sur ces mots. En revanche, quand je donne une musique à un auteur, alors là, je la chantonne. Je lui donne un truc en la 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 ou en, moi, je sais pas comment. Là, il faut qu'il respecte alors absolument mon phrasé. Absolument.
Donc c'est vous qui donnez le rythme.
Quand c'est moi qui compose la musique d'abord, oui. Quand c'est le texte, j'essaie de respecter le rythme du texte.
Donc il y a un sens et une moulinette qui peut intervenir dans ce sens-là. Il faut respecter la musique. Comme vous respectez le texte quand il est premier.
Ah oui, il faut respecter absolument. C'est la mélodie, en fait. Par exemple, à cet égard, si on veut se... Il y a deux chansons qui sont connues où on voit vraiment le travail des auteurs, qu'un travail, je trouve, d'orfèvre. C'est, par exemple, ma préférence. Ta, 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 ta. Là, il faut qu'il rentre absolument. Il peut pas rajouter ta, 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 ta. Vous voyez ce que c'est? Donc, quand je lui chante, quand je ta, 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 il faut qu'il mette les mots qui sont pile dessus. Et l'autre qui avait fait un véritable travail d'orfèvre, c'est été MacNeil quand il avait fait Mélissa, où je lui avais donné pam pam pim papim papam pam 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 papam papam pam. Il peut pas rajouter une syllabe à aucun endroit, évidemment.
Alors ça, ça conditionne un peu les collaborations, parce qu'il faut des auteurs musiciens, d'une certaine manière, en tout cas un peu techniques. Ouais. Et vous, il vous faut aussi un regard un peu littéraire quand même sur le texte aussi, en tout cas esthétique.
Mais j'ai toujours eu un regard littéraire sur les textes. J'ai été élevé comme ça. J'avais un père qui était normalien, qui aurait beaucoup aimé, le pauvre, que je suive ses traces. Mais il m'avait quand même inculqué... justement, il était prof de lettres, donc je veux dire, j'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours un rapport, même si ça m'ennuyait au début avec la poésie, ça m'a rattrapé après plus tard dans ma vie. Donc le texte, c'est une chose pour moi très très importante. C'est pas parce que je les écris pas que c'est pas justement, c'est peut-être même encore plus important ce qui était et ce qu'arrivent à faire les auteurs. D'ailleurs, toujours, ça m'émerveille parce que la chanson, c'est un style d'écriture bien particulier. Vous avez des grands auteurs de romans, par exemple, qui sont incapables d'écrire une chanson. C'est un esprit, c'est une tournure d'esprit particulière d'écrire une chanson. Il faut arriver à mettre des choses très importantes en quelques mots.
Alors on voit d'ailleurs votre intérêt pour plusieurs arts, puisque dans cet album À nos amours, il y a aussi ce tableau, enfin cet hommage rendu au tableau de Van Gogh, La Méridienne, La Sieste, qui s'appelle aussi La Sieste. La Sieste. Vous êtes allongé aussi contre une meule de foin. Et il y a donc cette recherche aussi dans les textes. Il y a la poésie. Il y a un hommage à Aimé Césaire. Donc pour vous, c'est à la croisée aussi de ces arts aussi que vous avez voulu écrire cet album.
Mais en général, depuis que je fais mon métier, c'est d'ailleurs l'intérêt de ce métier, c'est que c'est un métier profondément populaire. C'est pas parce que c'est populaire qu'on peut pas essayer de faire passer, de tirer les gens vers le haut, si vous voulez. La chanson populaire, c'est un art, c'est noble. Donc, c'est toujours l'idée que j'ai eue de mon métier, de faire entendre des choses. Mon idée de la vie, même si je ne suis pas un chanteur engagé.
Vous avez été à certains moments sur des sujets précis, encore récemment, sur la question du mariage pour tous, sur la question de l'adoption.
Mais heureusement, je ne l'ai pas mis en chanson parce que... Enfin, c'est pas heureusement d'ailleurs, mais... ou peut-être malheureusement, le sujet ne doit pas primer sur l'œuvre d'art, si vous voulez, pour moi. Donc il faut que ça soit d'abord une bonne chanson, et éventuellement après une chanson qui parle d'un sujet peut-être grave. On l'a réussi une ou deux fois. On l'a réussi avec Dabadi au moment de la peine de mort. Je pense que Étienne Rodagil l'a réussi une ou deux fois, comme il y a bien longtemps maintenant, quand des choses qui n'ont d'ailleurs pas toujours été entendues comme telles à l'époque, mais quand il avait écrit Poisson mort, je pense qu'Étienne, c'est une chanson sur l'écologie, tout à fait écologique. Hein. Déjà à l'époque, on parlait de ça. Hein. Donc, quand on peut mélanger les choses, même rendre la situation un peu plus grave, ça va. Du moment que ça reste une chanson populaire, voilà, c'est ce que j'essaie de faire depuis 50 ans maintenant.
Avec ce sont les paroles de la chanson Utile, hein, Utile à vivre et à rêver. Est-ce que pour vous, justement, le rôle de l'artiste, en tout cas le vôtre, c'est justement cet apport à la fois esthétique, mais aussi la beauté de la chanson, la beauté du texte, c'est ce rôle-là qui prime alors ?
Oui, ce qui prime, c'est d'abord, on ne connaît jamais complètement un artiste, me semble-t-il, chanteur, tant qu'on ne l'a pas vu sur scène. Et moi, je fais mon métier parce que je pense toujours à la scène, toujours. Je pense toujours qu'un jour, éventuellement, cette chanson-là sera chantée sur scène. Ça occupe mon esprit dès le moment où je la compose, en fait.
Alors justement, vous parliez de la composition qui peut être le cœur, ce que vous aimez le plus, inventer une musique. Il y a la scène aussi quand même. Oui. Vous êtes un interprète, alors vous êtes connu pour être à la fois un interprète très fort et très, et en même temps un interprète relativement statique, qui n'aime pas nécessairement danser. Vous portez tout par la voix.
Oui, je dansais un peu plus avant, sans que ce soit bien brillant, mais certainement plus que maintenant. Mais je pense qu'on voit que mon corps est quand même habité par la musique quand je suis sur scène. C'est ce qui compte d'ailleurs. Mais c'est vrai que la scène, c'est pour moi la récompense. Écrire des musiques, ça reste ludique, ça reste quand même. C'est un travail malgré tout difficile dont on ne voit pas la difficulté, on va dire. Voilà. C'est-à-dire que Généralement, quand je me mets à un piano pour commencer à composer, je ne vois pas le temps passer. Je suis étonné à chaque fois de voir, quand je dois passer à une autre occupation, que je viens de passer 2 heures sans les voir passer comme ça. Donc ça, c'est un miraculeux un petit peu, je trouve. Et ça m'amuse toujours autant, oui, de faire ça. Mais on va dire que la scène, c'est la récompense. Voilà, on chante pour les gens. Il y a un échange émotionnel très grand. L'idée que je me fais, c'est de faire voyager les gens quand même. Quand ils viennent voir un spectacle, c'est de passer par différentes émotions. Bon, j'ai souvent cité le cas d'un artiste qui m'a marqué parmi les spectacles qui m'ont marqué. On a tous des spectacles, on va dire 400 spectacles, qui nous ont absolument marqué et qui nous accompagnent toute notre vie. Moi, un de ces spectacles-là, c'était Léo Ferré, seul en scène avec un pianiste. Bon, Léo Ferré, on ne sortait pas sur un petit nuage quand on sortait de son concert. On sortait très bouleversé, un peu triste, parce qu'il disait des choses graves, toujours. Mais il y avait une charge émotionnelle très forte. Ça me va aussi. Je veux dire, d'autres artistes, on peut sortir, on est sur un petit nuage, et moi, c'est ce que j'essaie plutôt de faire, c'est-à-dire qu'on sorte heureux de là. Voilà. Mais l'important, c'est qu'il y ait eu de l'émotion. Voilà.
Mais quand je vous dis tout par la voix, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Qu'est-ce qu'elle, justement, vous parlez de la manière dont vous composez, de la manière dont les airs arrivent? Qu'est-ce que vous savez faire, vous, avec votre voix? Est-ce que vous avez, justement, une manière d'expliquer ce qui se passe, justement, pour que la scène, ce soit quasiment que ça, en tout cas, beaucoup ça, cette voix qui va transmettre?
J'ai appris avec le temps, en fait. Au début, je chantais complètement instinctivement. Et je composais déjà, évidemment, avec ma voix. Le piano n'est pas un instrument que je possède absolument de façon virtuose, on va dire. C'est plutôt un support harmonique qui me permet d'inventer des mélodies avec ma voix, justement. Donc je chantonne et je cherche des mélodies en chantonnant. Voilà. C'est la voix qui trouve. Et puis, après, évidemment, avec le temps qui est passé, j'ai eu une réflexion sur mon métier, je me suis rendu compte vite que, en fait, cette voix, c'était un cadeau du ciel, ou de la mère nature, en tout cas.
Pourquoi? Parce qu'elle est originale? Parce qu'elle est reconnaissable?
Non, parce qu'elle est originale. On peut ne pas l'aimer, mais elle ne ressemble à aucune autre, si vous voulez.
Il y a 2 chansons dont j'aimerais qu'on parle. La chanson écrite par Brigitte Fontaine, justement, Allemand comme elle respire, et puis la chanson La Plata.
Ah oui, mais c'est vrai que c'est une chanson de poète aussi, La Plata. Vous savez, le temps est passé, on parle d'un disque où je suis un petit peu comme les gens du cinéma, c'est-à-dire que quand ils ont terminé leur tournage, les acteurs, ils sont déjà ailleurs.
Pourtant, vous êtes encore en tournée?
Oui, je suis en tournée, mais l'écrémage, si vous voulez, des chansons de ce dernier album qui figure sur scène, c'est fait tout naturellement. Et comme j'ai un gros répertoire, je suis obligé d'être un peu sans pitié avec les chansons nouvelles.
Donc vous chantez pas tout?
Oh non, pas tout, pas tout du tout. Vous savez combien il subsiste de chansons aujourd'hui de cet album? Il y en avait 3 en septembre, je pense. Et dans les quelques concerts que je vais faire maintenant cet été, il n'en subsiste plus que 2. Les 2 qui subsistent, c'est Je t'aime, etc. et Sous mon arbre. Voilà.
Les 2 premières.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un écrémage naturel qui se fait au contact du public. Vous savez, c'est le public qui décide. C'est le public qui vous aide à faire votre tour de chant. C'est le public qui vous dit, si vous savez l'écouter, qui vous dit cette chanson n'est pas à sa bonne place ou cette chanson, on n'en veut pas.
Donc vous choisissez en fonction des réactions que vous sentez dans les salles, ou est-ce que c'est le nombre de likes sur les plateformes Deezer ou Spotify?
Jamais les likes. Si, je regarde quelles sont les chansons préférées, bien sûr, mais je les connais. C'est les mêmes. Il y a la dizaine de chansons qui sont incontournables que vous devez de mettre dans un tour de chant. Vous connaissez la phrase de McCartney qui dit, quand je vais voir les Stones et qu'ils jouent pas Satisfaction, je demande à être remboursé. Bon, donc moi, c'est ça que je pense d'un tour de chant, c'est que vous êtes là quand même pour plaire au public. Vous devez lui jouer quand vous avez la chance, comme c'est mon cas, d'avoir beaucoup, beaucoup de chansons et d'avoir un gros répertoire. Il faut jouer les chansons. Alors, il faut un peu de temps en temps bousculer tout ça, en changer quelques-unes, les mettre au repos, les remplacer par des chansons à peu près du même calibre, etc. Mais les chansons nouvelles ont par définition du mal à se faire de la place, surtout avec celles qui existent depuis très longtemps et pour qui, de toute façon, le public va avoir une préférence parce qu'il les connaît mieux.
C'est le cas de le dire.
Oui. Donc, c'est ce jeu-là, un peu subtil, mais très intéressant, qui vous, moi, qui me fait faire mes cette liste, mes tours de chant. Et en plus, c'est l'ordre des chansons. Il y a une dramaturgie dans un tour de chant de chanteur. Et c'est tout un art de placer les chansons à leur bonne place. Et on est étonné, quand on est sur la scène, de voir qu'à tel point une chanson, par exemple, a trouvé sa place, et à quel point une autre, par exemple, n'est pas la bonne place. Alors, mais bon, c'est très amusant à faire, et puis voilà.
Sous un grand arbre, j'ai poussé une sorte de vieux marronnier au centre d'une cour carrée, majestueux, dum, 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 dum. Dans ses racines j'ai puisé la sève des grandes traversées et mon pays je l'ai trouvé dans tes yeux.
Julien Clerc sera en concert les 5 et 6 juillet à Fouesnant, le 8 juillet au Musical du Parc aux Oiseaux de Villars-les-Dombes et le 24 juillet au Théâtre de Verdure de Gémenos, le 25 aux Arènes de Lunel et le 30 au Théâtre de la Mer Jean Marais de Villoris. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui était préparée par Julien Rosa, Chouchane Djergaillan, Lou Lejoli, Alexandra Brouillet, à la réalisation Marie Placé, à la technique Jean Frédérics. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.
Merveilleux, bam, bam, bam. J'ai fait durcir un peu les corses pour nous donner le cœur, la force.